Donc, je vais vous parler de Merlin, une élaboration autour des défenses contre le débordement émotionnel. Quand j'ai rencontré Merlin pour la première fois, et c'est un souvenir encore très vif pour moi, c'était un enfant de 2 ans, 9 mois, très agité, avec des gyrations, de nombreuses stéréotypies, dont celle éminemment dangereuse d'exciter ses globes oculaires en les pressant avec ses doigts. Son regard était impossible à saisir et son langage inexistant. Sa maman, dans ce premier contact, me raconte qu'il crie beaucoup à la maison, qu'il s'alimente de façon très particulière, prenant un aliment et jetant l'autre par terre, et qu'il a aussi des troubles du sommeil. Cette maman, inquiète et débordée, essayait de limiter ses allées et venues dans mon bureau. Elle semblait également très triste de ne pas pouvoir être en contact avec son petit garçon. Les parents avaient réalisé que quelque chose n'allait pas au moment où, après une chute du lit de sa sœur à l'âge d'un an, elle m'avait dit qu'il n'avait pas mis les mains pour se retenir, il s'était cassé un os, la jambe, et il n'avait pas pleuré alors que sa jambe était cassée. Et même à l'hôpital où les parents, les pauvres, s'étaient fait sermonner, Merlin n'avait pas montré de signe de douleur. La maman m'apprend que 2 semaines après l'accouchement, alors qu'elle allaitait Merlin, elle a dû être brutalement hospitalisée et l'allaitement s'en est trouvé interrompu. Les retrouvailles ont ensuite été très très difficiles et l'allaitement n'a pas pu reprendre, malgré le désir de la maman de renouer ce lien, parce que Merlin ne l'acceptait pas. Il est le dernier d'une fratrie de 4 enfants, 2 filles puis 2 garçons. Merlin souffre par ailleurs d'une maladie des reins qui fait qu'il ne doit pas ingérer trop de calcium. Cela s'est traduit hélas par des fractures osseuses et une forme très précoce d'ostéoporose. Donc il a eu de nombreuses fractures, à peu près une par an. Après avoir demandé un bilan au CRA de la région, la psychothérapie psychanalytique a été mise en place en même temps qu'un suivi en orthophonie, tous les 2 bi-hebdomadaires, en y ajoutant à l'entrée à l'école la présence chaleureuse et contenante d'une AVS dont il a eu la chance de bénéficier pendant plusieurs années, ainsi que d'instituteurs dévoués et intéressés par un travail en collaboration étroite avec nous. Le CRA a conclu à un autisme moyen. Les séances ont débuté alors que Merlin avait à peine 3 ans, ce qui a été très favorable à son développement ultérieur. Les 2 parents ont toujours été à nos côtés, soutenant notre travail, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Merlin a pu acquérir le langage, et malgré des difficultés à s'intégrer dans un groupe, il a suivi un enseignement de type ordinaire, avec la présence continue d'une AVS pendant presque la totalité du primaire. Je note aussi qu'il a eu un bilan avec une ergothérapeute plus tard quand il s'est agi de lui donner un ordinateur éventuellement pour faciliter le rapport à l'écriture. Mais il l'a très peu utilisé et après ça s'est arrangé. Il écrit très très vite, pas très très bien, mais très vite. Et il a eu aussi une rééducation avec une orthoptiste. Donc ce n'est pas le propos ici de détailler tous les mouvements de la psychothérapie, mais elle a été très riche. Notons cependant que j'ai choisi Merlin comme premier cas pour la recherche INSERM. Il avait alors 7 ans. Quelques mots sur la recherche. Vous trouverez ici un stand, comme disait Géraldine, qui pourra détailler ce travail de recherche sur l'autisme. Mené par Monique et Jean-Michel Turin, ici présent. Les enfants sont évalués, ce travail dure un an, se déroule sur un an. Les enfants sont évalués à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 1 an, à l'aide de 3 outils très intéressants qui sont l'EKRT, le CPQ, pour Child Psychotherapy Quotation, et la grille de Geneviève Hague, qui est maintenant nommée EPCA, échelle psychanalytique pour les changements dans l'autisme, qui est un outil formidable que je conseille pour les psychothérapies des enfantistes. Donc les thérapeutes sont regroupés par groupe de 3 pairs et à l'aide de plusieurs séances filmant, observées et notées, évaluent les changements au cours de la psychothérapie à tous ces temps de la recherche. Notons qu'il y a à l'heure actuelle un nouveau niveau de recherche qui allie causalité et complexité et qui approfondit encore les choses. Pendant l'année où nous avons travaillé avec mes 2 collègues, nous avons pu constater des progrès significatifs que le travail en réseau de 3 thérapeutes amplifiait encore par la richesse de nos hypothèses à toutes les 3. Au cours de ces années de thérapie, Merlin a acquis non seulement le langage qu'il utilise très bien, malgré un débit si rapide que je contrarie en parlant lentement et en lui précisant que sur la route aussi, il y a des limites de vitesse. Il rit beaucoup de ce genre d'image. Il a un excellent niveau scolaire et après des difficultés, il a maintenant beaucoup d'amis. Alors juste une petite parenthèse, il avait une façon très algébrique, ou je ne sais pas comment dire, avec des flèches. C'est tout le travail d'hier qui m'a fait penser à ça, où si je suis amie avec Florent, qui est amie avec Benoît, alors avec des flèches qui formaient un triangle, je suis forcément amie avec Benoît, puisque, etc., etc. Donc, toujours une façon assez mathématique quand même de penser les liens, qui s'est assouplie, je dois dire, petit à petit. Dans la psychothérapie, il a toujours été très actif physiquement, avec beaucoup de jeux musculaires. Notamment au début, où les jeux de sautillement et de rebondissement, hein, comme rebondir dans la tête du thérapeute, d'après les travaux de Geneviève toujours, prenaient tant d'importance que je l'avais surnommée « la petite grenouille ». Quand il a repris contact avec moi, vers les 11 ans, il était toujours aussi actif physiquement. Et bien qu'il était devenu un grand jeune homme, il n'hésitait pas à ôter lunettes et chaussures pour faire des roulades sur mon divan tout en me parlant. Il est donc devenu un adolescent très tonique, un grand garçon brun, bien bâti, participant avec plaisir à beaucoup d'activités proposées au collège. Théâtre, exposé, direction de cours. Alors direction de cours, c'est que les élèves sont... Le professeur propose à chaque élève, chacun son tour, de diriger la classe. Alors, il n'est pas du tout inhibé hein, par rapport à ça. Mais je dirais qu'il vit encore dans les extrêmes. Ça veut dire qu'au niveau de son humeur, cela peut basculer dans les larmes et le désespoir s'il ne trouve pas une solution à ses préoccupations. Et à l'inverse, il est un peu trop excité quand cela va bien. Espérons qu'il trouve une humeur confortable pour lui. En CMA, il a souhaité ne plus être accompagné par une AVS et se débrouiller seul, ce qui a bien fonctionné. Il a ensuite demandé à arrêter la psychothérapie, au moins pour un temps, et le passage au collège s'est fait de façon normale. J'ai accepté cette pause dans la psychothérapie en soulignant que je me tenais à la disposition de Merlin et de sa famille s'ils voulaient poursuivre le travail. Le CM2 et l'entrée en 6e se sont bien passés, mais hélas, à la séparation de ses parents, il s'est retrouvé en difficulté et sa maman lui a proposé de me revoir, ce qu'il a accepté volontiers. Il avait alors 11 ans, il était en 6e. Je l'avais revu avec sa mère à propos de la séparation des parents et quand je lui en avais parlé, il m'avait dit le résultat de ça. J'ai explosé en milliards de particules dans toute la galaxie. Je rapporterai quelques éléments de cette séance de reprise de 2015 qui peut concerner le débordement émotionnel. Il arrive dans mon bureau et d'emblée me questionne. Bonjour, j'ai une question. Comment fait-on pour contrôler ses émotions? Je demande comment il sent ses émotions. Mon corps sent une joie de vivre, la joie d'être vivant. Je lui dis, c'est-à-dire, le soleil écarte le froid. C'est simple. Et c'est logique. Mais il dit qu'il a beaucoup d'émotions très difficiles les vendredis soirs, car il doit se priver d'apprendre et de calculer. Car il calcule très vite. Son prof de maths le prenait pour un ordinateur à calcul, me dit-il. C'est peut-être ça le problème. Je dis que quand ses émotions arrivent, il a peut-être peur que son cœur déborde. Je dis que de découvrir les émotions, c'est une chose importante. Mais à propos des sensations, je demande, Il dit les sentir moins. Il sent beaucoup d'émotions dans son cœur. Ce qu'il n'aime pas, c'est ne rien avoir à faire, ne rien avoir à apprendre. C'est comme si mon cœur se suicidait. Ça revient au même. Ça sent la mort si je ne suis pas à l'école. Ici, en séance, comme au collège, il ne sent pas la mort. C'est pendant les vacances qu'il sent la mort. Il évoque le divorce de ses parents. C'est comme si mon cœur allait exploser. Il est coupé en deux, une moitié chez maman, une moitié chez papa. Et il voudrait passer plus de temps chez son papa. Pourquoi ? C'est que je déteste le voir seul, c'est pour ça. Il a moins besoin de penser à maman pour la protéger, elle se débrouille. Et son frère et ses sœurs sont plutôt du côté de maman. Il ne s'entend pas avec sa sœur plus jeune. Comme je suis surprise, il ajoute « Elle me dit des mensonges ». Je dis « Sur quoi ?»« Mais sur la vie. Là, par exemple, elle vient de me dire qu'il y avait le feu. » J'ai dit « Elle a voulu te faire une blague, mais c'est pas drôle. » Non, pas drôle du tout. C'est pour ça que je le dis. Si je n'avais pas de cœur, ce serait beaucoup mieux. Je dis que je trouve que c'est bien que son cœur sente, mais que ça fait mal quelquefois les émotions, et qu'il semble avoir peur de ne pas les contenir suffisamment. C'est peut-être aussi parce qu'il sent très fort ce que les autres sentent. Par exemple, son père, la solitude qu'il pourrait ressentir, et que c'est ça qui fait déborder son cœur. Oui, voilà. Et à ce moment-là, il a des larmes. Il poursuit. D'ailleurs, au collège, c'est un peu pareil. Je n'ai pratiquement aucun ami. Je n'en ai jamais eu depuis que je suis née. Ah là, je dis que je ne suis pas d'accord. Il m'a parlé des amis en primaire. Pas mal de filles, d'ailleurs. Il continue. Il faut dire que l'avenir ne se présente pas bien. Il est proche de son père car il pense que comme son frère et ses sœurs ont pris le parti de maman, il a l'impression qu'il est le seul à être proche de son père et à ressentir son chagrin. Depuis que papa est parti, j'ai perdu le plaisir. C'est comme si un gâteau rencontrait la pluie. Ça revient au même. Je dis, avant tu étais un gâteau heureux, mais depuis tu as rencontré la pluie, tu es devenu différent. Oui, c'est ça le problème. Je demande, et avec ton frère ? Oh, avec lui, un mois sur deux ça se passe bien, un mois sur deux ça se passe pas bien. Il faut dire que lui, le frère, il aime les vacances, au contraire de moi qui n'aime que l'école. Nous faisons alors un petit jeu sur les chiffres, le frère n'aimerait que les mois pairs, ceux des vacances, et lui les mois impairs. C'est un petit clin d'œil car Merlin savait compter avant de parler. Il comptait jusqu'à 100, deux par deux, aller-retour. Après toutes ces confidences, il aimerait écourter la séance. Il a une envie de partir très bientôt. J'insiste gentiment pour qu'il reste et je lui dis que ce sont les émotions de tristesse qui lui font le plus peur. Il me dit « Si je n'ai pas d'amis aujourd'hui, je n'en aurai plus après. » Je lui dis que je ne suis pas d'accord. C'est une crainte qu'il a aujourd'hui. Puis nous parlons du collège, de ses matières préférées. Il est bon en tout, mais l'éducation civique lui pose problème. Je ne comprends pas tous les mots, les choses administratives, la politique. Mon cerveau est pourtant un dictionnaire. Je dis que ça lui semble peut-être trop abstrait. Il a une très bonne mémoire, dit-il. Mon cerveau peut retenir beaucoup de choses. Il peut répéter ce que dit le professeur d'anglais. J'apprends très vite. Il m'a dit qu'il avait une mémoire presque, automatique, comme ça, complète, pendant tout un mois. Par ailleurs, il ne fait pas de rêve en ce moment. Il s'est protégé contre les cauchemars en parlant tout haut de choses agréables. C'est ma nouvelle technique. Je dis qu'il n'arrive peut-être pas à transformer les cauchemars dans sa tête, ce qui était effrayant. Ce serait mieux de laisser venir les rêves et qu'on en parle ici, non ? Oui, peut-être, mais si je laisse venir les rêves, ça peut faire revenir les cauchemars très vite. Je laisse sortir mes émotions en parlant. Sinon, ça chauffe. Si je ne fais rien, je vais avoir du feu dans mes oreilles. Je lui dis que finalement, les cours le protègent peut-être du vide et de ce que pourrait arriver dans le vide. Oui, dans les cours, j'entends la vie. Je dis, et tu fais du sport ? Oui. Enfin, il doit faire du sport de manière protégée parce qu'il ne doit pas tomber. Les os sont vraiment très fragiles. Et tu vas sur les ordinateurs ou pas ? Ah, cela, non, je n'ai pas du tout envie de perdre ma intelligence, rien qu'avec des conneries. Ça embrouille mon cerveau et après, lui, il devient de plus en plus con. Je lui demande comment ça se traduit, cette affaire-là. Il montre alors ce que son corps fait quand son cerveau est embrouillé. C'est une sorte, il mime une sorte de danse saccadée sur mon divan avec des secousses plutôt à droite, qui m'évoque comme une crise d'épilepsie dans le mime qu'il en fait pour moi, enfin, c'est pas exactement ça, un manque de contrôle, une désorganisation corporelle. C'est la fin de la séance et nous devons nous arrêter là. À la séance suivante, il me dira que sa tristesse n'est plus là et qu'il est soulagé. Nous avons dû différencier ensemble émotions et sensations. Lui parle beaucoup de son cerveau, très rapide, et de son incapacité à gérer l'afflux brutal et intense des émotions. Mais il parle d'une manière très imagée, très poétique également, où le corps n'est pas absent du tout. Nous retrouvons les grands opposés bien connus, le sec, le mouillé, avec le gâteau et la pluie, le froid, le chaud, le soleil écarte le froid, la vie, la mort, apprendre ou être en vacances. C'est surtout la trop grande intensité de l'émotion qu'il semble craindre et son apparition brutale, difficile à prévoir. Le partage avec moi de toutes ses émotions et la contenance qu'il a trouvée dans la séance semble l'avoir aidé momentanément, en tout cas à consolider sa peau psychique. Plus tard, toujours en 2015, il y a eu une séance qui m'a beaucoup interrogée. Merlin fait en tout début de séance la démonstration suivante. Il part de ma porte d'entrée et traverse mon bureau jusqu'à un fauteuil de bois. Il se place derrière celui-ci, se penche au-dessus de son assise et me dit « Là, je vois des baguettes, de la paille, des carrés. » Il retourne alors à la porte d'entrée et fait le même parcours, cette fois en fermant les yeux. Arrivé près du fauteuil, il le touche, il le palpe, il s'assoit dessus et me décrit « C'est un fauteuil, il a un dossier, je suis bien assis, il a des pieds. » Il touche le tout et décrit quelque chose qui me semble tout à fait commun. Comme il voit que j'ai du mal à saisir ce qu'il veut me dire, il recommence alors sa démonstration une fois, puis une autre fois, et me donne des précisions supplémentaires. Alors, en fermant les yeux, en ouvrant les yeux, là je vois des bouts de bois comme des baguettes de tambour, de la paille comme pour les biquettes, des carrés comme pour jouer à la marelle. Je suis alors envahie d'un sentiment d'étrangeté, car cette séance se situe après des séances constructives, enfin assez d'un niveau assez élevé, où la vie de Merlin à la maison comme au collège semblait se dérouler sur un fond de cohésion corporelle et mentale. J'étais d'autant plus surprise de cette communication sensorielle. Et c'est en visualisant un monde plat que j'ai pu voir, entre guillemets, ce que Merlin tentait de me communiquer en racontant cette expérience sensorielle impossible à mettre en mots. Mes sens ne s'entendent plus, ils sont séparés. J'apprends alors que depuis la dernière séance, il a eu son rendez-vous chez l'orthodontiste pour régler l'appareil dentaire qu'il porte. J'étais déjà très surprise de le voir avec un appareil dentaire et qu'on ait réussi à lui faire toutes ces manipulations dans la bouche. Je lui dis que ce rendez-vous, avec l'intrusion de la main du dentiste dans sa bouche, a dû réactiver une angoisse très forte. Je lui demande si cela se produit à chaque rendez-vous dentaire et si la récupération prend beaucoup de temps. Oui, à chaque fois, et ça dure 3 semaines environ, sauf si un médecin ou quelqu'un comme ça intervient. Vous êtes une personne comme ça ? Je lui dis que je soigne les difficultés dont il me fait part aujourd'hui. L'ambiance de la séance n'est pas lourde. Il me dit qu'il trouve cet état compliqué, mais pas trop angoissant. C'est plutôt comme un grand ralentissement qui le gêne beaucoup, qui lui complique la vie. Par la suite, il me fera d'autres démonstrations qui concernent par exemple la marche sur la pointe des pieds. Enfin, je fais un petit, si ça intéresse. Il a mimé, enfin il avait mis tous les coussins par terre, et puis il mimait que, par exemple, les coussins seraient comme des sortes de cailloux, de rochers au sol, et alors il arrivait, et alors il me montrait que si il avait les pieds collés au sol, le rocher le faisait chuter, alors que s'il arrivait avec la pointe des pieds, il y avait cette sorte d'élation, et alors on voit bien que derrière il y avait des chutes, des angoisses de chute, parce que sur la pointe des pieds, il risquait pas de chuter. Hop, il passait avec une légèreté aérienne par-dessus les difficultés. Dans la séance donc, que j'ai rapportée, là, nous pouvons voir, je pense, enfin, c'est pour ouvrir une discussion aussi, hein, avec la salle, avec vous tous, une réintégration des données sensorielles chez Merlin, après avoir vécu l'action du dentiste dans sa bouche comme persécutrice, rappelant une expérience antérieure vécue comme dans son corps et qui l'avait dissociée. Le point important du travail de transformation serait peut-être de l'aider à trouver les bonnes combinaisons entre ces différentes sensorialités et diminuer leur distance et dissociation. Paula Heimann et Bion ont décrit autour des différentes sensations de l'importance qu'elles soient bien accouplées, bien conjuguées, afin de construire quelque chose qui les rassemble et non quelque chose qui les oppose. Des couplages, des conjugaisons, des assimilations naissent autour de ces sensorialités, mais aussi des oppositions. Dans les séances, il semble important de laisser ressentir que l'espace de la séance et l'analyste peuvent accueillir à la fois l'explosion, la rage, le trop d'émotion, l'ennui mortel, le trop chaud, les côtés mécaniques, le feu pulsionnel, l'excitation, et par là même partager l'expérience qu'on peut survivre à tout cela et proposer une digestion de ces éléments saturés et indigestes de façon à les rendre assimilables. Je voulais faire un petit aparté sur la notion de la peau décrite par Esther Beck, hein, puisque bon, c'est très intéressant, et par la peau psychique dont Bion a parlé, puis Melzer, puis Geneviève, aussi pour les enfants autistes, et tout ce travail qui était très riche, et bon, c'était pas le lieu d'en parler, mais c'est très, ici, enfin avec mon exposé, mais c'est très intéressant, ça m'a beaucoup soutenue. L'avantage d'avoir bénéficié d'un traitement antérieur a permis à Merlin de me montrer le scénario d'une expérience qui a dû être beaucoup plus effrayante par le passé. En effet, il avait déjà récupéré une contenance et une qualité de peau psychique, ce qui fait que malgré l'aspect éclaté et ce qu'il rapportait de sa gêne, je n'avais quand même pas l'impression qu'il perdait totalement ses capacités de communication. Cependant, malgré les progrès importants, il lui reste encore à contenir ses émotions extrêmes. Lors de la dernière série de séances de travail avec moi, j'ai pu constater des difficultés à bien digérer le passé douloureux et se remémorer l'enfant en difficulté qu'il avait été semblait trop difficile pour lui. Espérons qu'il pourra continuer ce travail d'élaboration plus tard afin de renforcer encore sa peau psychique, approfondir sa pensée sans craindre le trop-plein d'excitation, le vide, les larmes, ni l'effondrement. Je vous remercie de votre attention.